Bonjour, je suis Olivier. Bienvenue dans le podcast de Ninartri. Aujourd'hui, je vais résumer et critiquer le livre « Al-Am et le soi, renaissance et individuation ». Attribué à Carl Gustav Jung, avec des contributions éditoriales et de traductions liées à Claude Maillard, Christine Figuer-Maillard et Roland Bourneuf. Appartient au champ de la psychologie analytique. Le volume présente une réflexion centrée sur le processus nommé individuation, par lequel la vie psychique tend vers une forme plus complète et plus différenciée. Son objet principal concerne la relation entre le moi conscient, le soi comme centre plus vaste de la personnalité, et les contenus inconscients qui se manifestent par des images, des affects et des symboles. Ce livre ne relève ni du manuel clinique simplifié ni du développement personnel ordinaire. Il propose plutôt une exploration théorique et pratique de la manière dont la psyche acquiert une cohérence interne. Son intérêt tient à la place accordée aux symboles, à la différenciation psychique et à une conception de la personne comme réalité intérieure en transformation. Je vais vous présenter les points clés de ce livre. Premièrement, le processus de individuation comme découverte progressive de la totalité psychique. Le thème central du volume est le processus de individuation, notion majeure de la psychologie analytique de Jung. Il ne désigne pas une simple affirmation de la personnalité sociale ni une recherche de singularité extérieure. Il renvoie plutôt à une transformation intérieure dans laquelle la personne rencontre des aspects psychiques jusque la tenue à distance par le moi conscient. Cette transformation suppose une différenciation progressive entre ce que la personne croit être, ce que son environnement attend, et les forces inconscientes qui orientent ses réactions, ses conflits et ses images intérieures. Le livre insiste sur le fait que la psyche ne devient pas plus entière par suppression des tensions, mais par reconnaissance et organisation de ces tensions. Le moi conserve un rôle nécessaire, car il permet la conscience, le jugement et la continuité personnelle. Cependant, il ne peut prétendre représenter toute la vie psychique. La valeur de l'individuation vient donc de ce déplacement. La maturité psychique ne consiste pas à renforcer uniquement le moi, mais à établir une relation plus juste avec le soi. Principe plus englobant de totalité. Deuxièmement, la relation entre le moi et le soi comme axe structurant de la psychologie jungienne. Le volume accorde une importance décisive à la distinction entre le moi et le soi. Le moi correspond au centre de la conscience ordinaire, il organise la mémoire personnelle, les décisions, les identifications et la manière de se situer dans le monde. Le soi, chez Jung, désigne une totalité psychique plus vaste, qui comprend le conscient mais aussi les dimensions inconscientes de la personnalité. Cette distinction évite deux réductions opposées. La première consisterait à confondre toute la personne avec son moi conscient. La seconde consisterait à dissoudre la conscience dans des forces inconscientes sans orientation. Le livre montre que la vie psychique demande une relation entre ses pôles, non la domination exclusive d'un seul. Le soi peut apparaître comme principe organisateur, mais le moi doit accueillir ses manifestations avec discernement. Cette dynamique explique pourquoi Jung parle de étapes, de médiation et de symboles plutôt que de conversion immédiate. Le travail psychique véritable se situe dans le dialogue entre conscience limitée et totalité intérieure. Troisièmement, le symbole comme langage spécifique de la vie psychique profonde, une des contributions les plus caractéristiques du livre, concerne le rôle du symbole. Pour Jung, le symbole ne se réduit pas à un signe décoratif ni à une allégorie que la raison pourrait traduire une fois pour toutes. Il constitue une forme vivante par laquelle des contenus psychiques complexes deviennent perceptibles sans être entièrement épuisés par une définition abstraite. Dans le contexte de l'individuation, le symbole permet au moi de rencontrer ce qui dépasse ses catégories habituelles. Les images issues des rêves, des mythes, des figures religieuses ou de la création culturelle peuvent alors servir de médiation entre conscient et inconscient. Le livre souligne que la vérité de la psyche ne se livre pas seulement par explications conceptuelles, elle se manifeste aussi par des formes chargées de sens affectif. Cette approche donne au symbole une fonction pratique. Il aide à contenir les oppositions internes, à rendre pensable ce qui semblait chaotique, et à donner une structure aux transformations de la personnalité. Quatrièmement, la renaissance de la réalité de la psyche face au modèle réducteur. Le terme renaissance prend une portée importante dans ce volume, car il renvoie à une revalorisation de la réalité psychique. Jung refuse de considérer la vie intérieure comme simple illusion subjective ou comme produit secondaire sans autonomie. La psyche possède un monde propre, avec des formes, des tensions et des régularités qui exigent une approche spécifique. Cette position distingue la psychologie analytique de lecture strictement rationaliste ou uniquement comportementale. Le livre ne propose pas de nier les dimensions biologiques et sociales de la personne, mais il insiste sur le fait que ces dimensions ne suffisent pas à expliquer les images intérieures, les conflits symboliques et les expériences de transformation. La Renaissance dessine donc moins un retour historique précis qu'une manière de redonner un statut à la vie de l'âme. Cette perspective permet de comprendre pourquoi Jung accorde tant de place aux productions symboliques et aux traditions culturelles. Elle révèle des structures de sens que la conscience moderne tend parfois à négliger. En dernier lieu, une psychologie pratique fondée sur la différenciation plutôt que sur la recette. Même si le livre demeure exigeant sur le plan conceptuel, son orientation est pratique au sens jungien du terme. Il ne fournit pas une méthode rapide d'amélioration personnelle, mais une manière de penser les transformations psychiques réelles. La notion de différenciation en constitue le noyau. Différencier signifie apprendre à distinguer les niveaux de la psyche, le moi et ses défenses, les affects. Les images inconscientes, les identifications collectives, les tendances opposées qui coexistent dans une même personne. Cette exigence empêche les solutions simplistes. Une impulsion ne doit pas être automatiquement suivie, mais elle ne doit pas non plus être refoulée sans examen. Une image intérieure ne doit pas être traitée comme vérité littérale, mais elle ne doit pas être rejetée comme absurdité. La pratique jungienne cherche plutôt une attitude capable de recevoir, comparer, interpréter et intégrer. Cette prudence donne au livre sa valeur durable. Il aide à comprendre la croissance psychique comme un processus lent, symbolique et conflictuel. En conclusion, Elle, âme et le soi, renaissance et individuation convient surtout aux lecteurs qui souhaitent comprendre la psychologie analytique au-delà des formules courantes sur les archétypes ou les rêves. Il intéressera les étudiants en psychologie, les praticiens sensibles aux approches symboliques, les lecteurs de Jung déjà familiers avec ses notions principales, ainsi que toute personne attirée par une réflexion rigoureuse sur la formation intérieure de la personnalité. Son bénéfice intellectuel tient à la clarification d'un point essentiel: la vie psychique ne se réduit pas au moi conscient, mais elle ne peut pas non plus se passer de lui. Son bénéfice pratique réside dans une meilleure compréhension des tensions, des images et des conflits qui accompagnent les transformations personnelles profondes, par rapport à des ouvrages plus introductifs. Ce volume se distingue par sa concentration sur la individuation comme processus structurant et par la place accordée aux symboles comme médiation entre conscient et inconscient. Par rapport à des livres de développement personnel, il se montre plus dense, moins prescriptif et plus attentif aux ambiguïtés de la psyche. Sa force vient précisément de cette exigence. Il ne promet pas une solution simple, mais propose un cadre solide pour penser la maturation intérieure. Si vous souhaitez soutenir Jung Chez G, vous pouvez acheter le livre via le lien Amazon que j'ai fourni dans la description du podcast. Après avoir lu le livre, faites-moi savoir ce que vous en pensez et partagez vos réflexions. À bientôt.